Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, l'Irak peut-il sortir de ces épisodes récurrents de sécheresse?
Oui, le dérèglement climatique est tangible en Irak, qui a connu depuis le début du printemps une dizaine de tempêtes de sable de plus en plus fréquentes, de plus en plus puissantes. Il n'est plus rare en Irak que les températures atteignent les 50 degrés dans le sud du pays. Et les grands cours d'eau que sont le Tigre et l'Euphrate sont à la peine. Le niveau d'un réservoir au nord de Mossoul était tellement bas ces dernières semaines que des archéologues en ont profité pour lancer des fouilles. Ils y ont trouvé toute une cité engloutie de l'âge du bronze. Alors certes, l'Irak n'est pas coupable de changement climatique, mais quelle est la part de responsabilité des autorités irakiennes dans la sécheresse? Bonjour Peter Harling. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous dirigez le réseau Synapse. Vos recherches portent sur l'Irak où vous avez vécu et travaillé pendant 7 ans et vous menez aujourd'hui et supervisez des recherches notamment sur le Liban et la Syrie. Alors autant le dire tout de suite, Peter Harling, ça vous agace qu'on ne parle de la sécheresse en Irak que quand arrive l'été, voire qu'on s'en soucie parce que nous voyons bien chez nous aussi que les températures s'emballent. Depuis quand l'Irak connaît-il ces épisodes de sécheresse récurrents? D'abord sans évoquer les causes, mais le constat.
L'Irak a des problèmes de gestion d'eau depuis plusieurs milliers d'années, en fait. L'Empire akkadien, 2000 ans avant Jésus-Christ, s'est effondré en partie pour des questions de gestion de l'eau, comme l'Empire abbasside qui régnait sur le monde arabe au 9e siècle. L'Irak, c'est un pays qui incarne assez bien ce problème de comment gérer la ressource en eau, avec des succès et des échecs qui s'enchaînent depuis longtemps. Les phases de sécheresse sont de plus en plus nombreuses. En fait, on a pu parler de sécheresse ces dernières années, en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, à tel point qu'on peut plus vraiment évoquer ces phases de sécheresse autrement que un changement structurel dans le rapport à l'eau.
Alors qu'on est dans un pays né d'une abondance d'eau, rappelez-vous régulièrement dans vos travaux, la Mésopotamie veut dire littéralement entre les fleuves, en l'occurrence l'Euphrate et le Tigre. Alors il y a tout ce qui relève du dérèglement climatique et c'est indéniable. Il y a la mauvaise gestion de l'eau par les autorités irakiennes, on va en parler Peter Harling, mais il y a aussi les mesures prises par le voisin turc. L'Irak a pour voisine la Syrie à l'ouest et la Turquie à l'extrême nord qui l'accuse de le priver de l'or bleu. Est-ce que la Turquie a aujourd'hui encore des barrages en construction ou en projet sur le Tigre et sur l'Euphrate?
Mais la Turquie met en œuvre une logique de grands projets hydrauliques depuis les années 70 et donc s'est lancé dans une politique de contrôle et de gestion de la ressource en eau à peu près au même moment que l'Irak d'ailleurs et d'autres pays de la région. Ça passe notamment par la construction de grands barrages. Il en reste un certain nombre. Je pense que la Turquie en avait prévu 22. Il doit en rester encore 6 à construire et remplir. Et ces phases de remplissage sont particulièrement coûteuses en aval, puisque on retient toute l'eau. Ce qui est dangereux du côté de la Turquie, c'est qu'en fait, la Turquie ne fait pas simplement que construire des barrages, mais est en train de rediriger une énorme partie de cette eau vers des projets d'agriculture intensive. Et donc, c'est une eau qui n'est pas simplement retenue puis libérée dans les fleuves, c'est une eau qui reste en Turquie.
Et est-ce que la Turquie pourrait temporairement couper les robinets, comme elle l'a déjà fait par le passé, en l'occurrence pour obtenir quoi?
Elle l'a fait par le passé, mais toujours en utilisant cet argument qu'il s'agissait seulement de remplir un barrage et que la ressource était retenue de façon temporaire. Ce qu'on voit, c'est un projet beaucoup plus ambitieux, en fait, d'aménagement du territoire en Turquie au détriment du voisin et sans dialogue en cours avec eux.
La Turquie, dès les années 70, elle voulait être en mesure de faire face à l'accroissement démographique, à l'urbanisation, d'où ses grands projets de barrage. Mais on sait aussi que c'est une véritable arme politique contre les régions kurdes, qu'elles soient en Syrie ou en Irak, on en a déjà parlé dans cette émission. Peter Harling, pourquoi l'Iran, voisin de l'Est, est accusé aussi d'être en partie responsable de la sécheresse irakienne, puisqu'il n'est traversé ni par le Tigre ni par l'Euphrate?
Alors, il y a un certain nombre de fleuves qui abondent le Tigre en Irak et qui trouvent leurs origines du côté iranien de la frontière, donc de l'autre côté de la chaîne de montagnes du Zagros. L'Iran, c'est un peu le modèle contraire à la Turquie. C'est un pays qui traverse sa propre crise de désertification, qui est une crise extrêmement inquiétante, mais dans un contexte où le régime ne cherche en rien à gérer intelligemment sa ressource en eau. Donc des fleuves qui pourraient traverser la frontière vers l'Irak sont détournés complètement, et leur lit, enfin l'Iran déverse dans leur lit des eaux usées, des égouts qui sont envoyés vers l'Irak faute d'infrastructures pour ou même de volonté politique pour les traiter sur le territoire iranien.
D'où ces Irakiens qui vous disent régulièrement se sentir empoisonnés par les voisins. Il n'y a aucune coopération au niveau régional sur cette question du partage des ressources. Il y a bien eu quand même des accords de partage de l'eau dans le passé.
Ben, c'est un serpent de mer. Hein. Le premier accord date de 1920. Donc il s'agit maintenant de plus d'un siècle de conversations qui n'ont jamais vraiment débouché. Aujourd'hui, on se situe en Irak dans un pays qui n'a pas de gouvernement. Et quand il a un gouvernement, c'est un gouvernement qui est issu d'un accord de partage des ministères entre de multiples factions, toutes plus corrompues les unes que les autres. Et donc l'Irak a beaucoup de mal dans cette phase à négocier son intérêt national plus que l'intérêt particulier de chacune de ses factions.
Il faut dire que les trois pays, Turquie, Irak et Syrie, par ailleurs, n'ont pas la même définition du Tigre et de l'Euphrate, qui sont pour Ankara des fleuves transfrontaliers et pour Bagdad et Damas des fleuves internationaux. Qu'est-ce que ça change ?
Je pense que ça donne l'occasion aux pays qui sont en amont de ne pas assumer leur responsabilité dans la gestion de cette ressource essentielle qu'est l'eau, et de se contenter de blâmer les pays en amont. Donc ça, c'est, je pense que c'est un avantage tout simplement populiste. Évidemment, c'est un désavantage s'il s'agissait simplement de partager une certaine ressource. Mais la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on l'emploie. En Irak, on continue à utiliser des techniques d'irrigation, par exemple, qui sont extrêmement dispendieuses. Tout un système de retenue d'eau en plein milieu du désert qui se prête à une évaporation absolument massive. C'est-à-dire que le niveau d'évaporation en Irak correspond à peu près au niveau de production de ressources en eau annuellement. Donc on génère une ressource qui est littéralement perdue sous forme d'évaporation.
Qui est responsable de la sécheresse en Irak ? L'invité des enjeux internationaux ce matin est le chercheur Peter Harling.
Alors Peter Harling, on entend bien dans ce que vous dites que chacun se rejette la responsabilité de cette mauvaise gestion de l'eau. Vous commenciez à évoquer la responsabilité des autorités irakiennes et vous écriviez il y a 2-3 ans dans un article pour Orient 21, vous écriviez que toutes les solutions possibles se situent à l'intérieur des frontières irakienne. Il faut dire, Peter Harling, que l'Irak est un pays qui reste très riche en eau, en tout cas selon les normes régionales, par rapport à des pays comme la Libye, le Yémen, l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup d'eau en Irak.
L'Irak, aujourd'hui, produit en termes de ressources renouvelables annuellement 2500 mètres cubes d'eau par personne. Donc 2500 tonnes d'eau par an, ce qui est plus que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Par rapport à ses voisins, l'Irak est extrêmement riche en eau. Donc il s'agit vraiment de se poser la question de comment cette eau est utilisée à l'intérieur des frontières de l'Irak, plutôt que d'en faire une question de géopolitique, de blâmer les voisins ou même d'accuser le changement climatique, bien qu'il soit tout à fait réel.
Parce que vous évoquiez les modèles de contrôle de l'eau, ils datent de quand ? Ils ne sont plus efficaces, on l'a bien entendu, mais pourquoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils l'ont déjà été ? Vous évoquez un problème de tuyauterie, par exemple. Il y a des fuites régulièrement dans les tuyaux qui servent aux canalisations irakiennes.
Ben, c'est un modèle qui remonte aux années 60, donc dans le monde arabe, un moment de transformation politique vers des modèles républicains qui se fondent sur la souveraineté, la fierté nationale, mais aussi une logique de contrôle des populations, mais aussi des ressources. Donc on développe d'impressionnantes infrastructures de contrôle hydraulique avec des barrages, des retenues, des canaux, etc. Mais dans une logique de souveraineté nationale sur la ressource et pas du tout de coopération avec les voisins. Aussi dans une logique d'abondance et de redirection de cette eau vers une agriculture intensive qui correspond au même modèle, donc de souveraineté alimentaire, d'autonomie sur le plan alimentaire, de culture stratégique comme le blé, qui correspondent pas forcément au climat, qui sont extrêmement coûteuses en eau. Donc aujourd'hui, jusqu'à maintenant, 80% de la ressource est dirigée vers une agriculture qui produit de moins en moins, notamment parce que les techniques sont éculées et qui ne nourrit pas une population qui, elle, est galopante. Il faut garder à l'esprit que le principal problème de l'Irak, c'est une explosion démographique. C'est un des rares pays dont la population continue à doubler tous les 20 ans.
Donc une combinaison de problèmes, des systèmes de contrôle de l'eau complètement désuets et qui gaspillent beaucoup. Et si j'évoquais la tuyauterie, c'est notamment parce que pendant l'embargo, pendant les années Saddam Hussein, il y a eu un problème d'approvisionnement en tuyaux. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de fuites dans le réseau. Un problème de gestion, comme on dit, de gouvernance aujourd'hui par les autorités irakiennes. Et un problème de démographie que vous évoquez, Peter Harling, avec ce chiffre complètement hallucinant. Mais chaque jour, un Irakien consomme 392 litres d'eau douce à des fins domestiques seulement. Pourquoi ?
Et d'ailleurs paye moins d'un euro par an pour cette consommation. Et là, il s'agit des particuliers, les fermiers payent encore moins. Quand ils payent, parce que personne ne ramasse vraiment des factures, et il n'y a pas de contrôle de l'eau sous forme de compteur. Donc on a beaucoup de mal à ne serait-ce que connaître les chiffres qui correspondent précisément à la consommation de l'eau dans différentes parties du pays. Donc ça correspond tout à fait à un pacte social qui lui aussi remonte à ces années 60-70, où les régimes s'imposent dans une vision moderniste et proposent à leur population non pas une quelconque liberté politique, mais un accès à une énergie et à une eau quasiment gratuite.
Voilà, merci beaucoup Peter Harling. Aujourd'hui en Irak, on réfléchit quand même à mettre en œuvre des systèmes de récolte d'eau de pluie et surtout à moderniser tout ce système-là. Merci beaucoup Peter Harling d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez le réseau Synapse et que vous étiez en direct ce matin depuis Beyrouth. Merci.
Au revoir.
Merci. Les enjeux, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux.
France Culture. L'esprit d'ouverture.